Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler de Google I.O. avec des choses plutôt étonnantes et enthousiasmantes. Et puis, on a aussi toute une série de petites news avec des voitures électriques qui arrivent par la force des choses, des services de streaming bien français de chez Gaumont, et puis des lois qui sont peut-être un petit peu critiquables aux US et chez nous en Europe. Et c'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, et c'est le rendez-vous tech numéro 459 en mai 2022. Et je suis très heureux de recevoir, comme une fois par mois, Marion et Jeff qui sont là avec moi. Salut Marion, je t'ai vu en vrai la semaine dernière. C'était incroyable.
On ne s'était pas vu depuis 2 ans, c'est ça ? Ouais. Deux, trois ans ?
Je crois, ouais, oui, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est un plaisir en tout cas de te voir, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, j'étais à Paris pour une petite semaine avec les deux enfants et je me plaignais du voyage en avion avec les deux enfants qui dure quoi, les 2-3 heures de la Finlande. Et à côté, il y a Jeff qui lui a fait la traversée de l'Atlantique avec ses enfants. Donc oui, je ne devrais pas parler trop fort en fait. Comment ça va Jeff ?
Ça va. Bah, c'est dommage qu'on se soit manqué à Paris, parce que j'étais à Paris aussi pour 2 jours, il y a une quinzaine de jours. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas coordonnés. Ça aurait été un grand plaisir qu'on puisse se voir, parce que ça fait vraiment super longtemps qu'on ne s'est pas vu face à face.
Ah ouais, non mais alors toi, ça fait plus que 2 ans. Hein. Toi, c'est...
Plus que 2 ans, ça fait une paye. Mais j'ai eu le grand plaisir de t'entendre avec Nat et Dany pour le numéro spécial des 15 ans d'Azeroth.fr. Ça m'a retourné dans notre passé de joueur de World of Warcraft, même si je continue à jouer un petit peu. Mais c'était un grand plaisir. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous enjoins à le faire, parce que c'était vraiment un grand plaisir.
Et c'est vrai que... On en parle de temps en temps, mais assez rarement. Au final, nous, on s'est rencontrés parce que tu écoutais Azeroth.fr et on s'est croisés, quoi, c'était à la WWI en 2008, je crois.
À la WWI en 2008, je me suis approché de toi parce que t'étais Patrick Béja et puis moi, j'étais juste un petit débutant dans le monde du podcast. Et puis, en fait, on est devenu amis. Quelques petites interventions sur Azeroth.fr. On avait fait un ou deux épisodes ensemble lorsqu'on était à la BlizzCon. Ça, c'était super sympa. Mm-hmm. Et puis, en fait, on a proposé de rejoindre le rendez-vous tech il y a maintenant 13 ans. Et ça ne nous rajeunit pas.
Oui, c'est clair. Écoute, en tout cas, je suis bien content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Et on s'arrangera pour se croiser quand même à un moment, soit à Paris, soit aux États-Unis, on verra. Soit peut-être ailleurs. Yep. Et du coup, ça me donne l'occasion de remercier des personnes qui rejoignent l'aventure du Patreon. C'est notamment Alonso Nicolas et Julien from neuroplasticity.how qui ont rejoint l'équipe des formidables patriotes du Patreon, du rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech et qui contribuent au fonctionnement de l'émission. Et il y a aussi les producteurs SSI78, et Aubeuf, qui est un nouveau producteur. Donc, merci à vous. Je vous fais un petit... Quand même, parce que là, je suis revenu à la maison, donc j'ai les effets sonores, on ne va pas s'en priver. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et vous pourrez vous parler de mon voyage à Paris et de toutes mes aventures et mes mésaventures avec mes enfants. Mais je pense que vous êtes là pour qu'on parle de tech et qu'on vous résume les infos. Donc, on va se lancer avec l'info à retenir. L'info à retenir aujourd'hui, c'est évidemment Google I.O., la conférence pour développeurs de Google. Il y a celle d'Apple qui arrive dans 2 semaines environ, un petit peu plus. Et celle de Google, c'est un moment qui est devenu un petit peu bizarre depuis quelques années parce que elle est généralement un petit peu décevante et du coup, enfin, au niveau du logiciel et du matériel, et on sent qu'ils n'ont pas un énorme momentum derrière eux. Ils font beaucoup d'argent, hein. Il n'y a pas de problème au niveau de Google, mais les présentations ne sont pas super excitantes. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais... vous savez, il y a cette petite phrase, je m'attendais à rien et j'ai été quand même déçu. Bah là, c'est un peu la moitié du contraire. La moitié du contraire, ça serait un bon titre d'épisode, ça. La moitié du contraire, parce que je m'attendais à rien et j'ai été plutôt enthousiasmé, voire plutôt très enthousiasmé, à tel point que je me suis retrouvé un petit peu dans une sorte de reality distortion field où tout ce dont il parlait, ou presque, me semblait incroyable, un petit peu comme on le faisait avec certaines conférences Apple, quand on se laisse prendre par la hype, et puis après, au bout de une journée, deux journées, trois journées, on redescend un peu et puis on réfléchit, surtout quand on doit faire un podcast dessus, on se dit « Alors attends une seconde, est-ce que tout ce que j'ai vu était vraiment super excitant ou est-ce que je me suis auto-hypé tout seul et que la présentation était bien faite ?» Et du coup, c'est un sentiment qui est assez rare, je trouve, avec les présentations de Google. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y avait cet effet à la fois sur la partie logiciel et service. Quand on dit logiciel, c'est la manière dont Google développe la recherche, parfois et généralement avec intelligence artificielle. Donc, la recherche en recherche. Et puis, en même temps, même si c'est un petit peu plus vaporware-ifique, c'est-à-dire que c'est des... Je voulais dire en même temps, du côté de la gamme Pixel, donc du matériel, dont ils ont annoncé beaucoup de choses qui ne sont pas encore disponibles et certaines qui ne seront pas annoncées, qui ne seront pas disponibles pendant un long moment. Mais il n'empêche, tout ça m'a plutôt enthousiasmé et ça m'a paru plutôt positif. Donc, je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai retenu et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé aussi. Alors, au niveau donc recherche sur les outils de recherche, il y avait beaucoup de choses. Ce que je retiens, c'est qu'ils ont développé leurs outils pour la traduction de différentes langues. Et au niveau technique, technologique même, une chose qui est notable, c'est qu'avant, ils utilisaient des modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, avec des textes traduits d'une langue à l'autre. Donc, ça permettait d'apprendre à une langue à traduire grâce à cette traduction existante. Et bien là, ils ont développé des outils qui leur permettent de comprendre une langue même s'il n'y a pas de texte de traduction. Donc, ils n'ont pas besoin de se baser sur des bases qui ont les deux langues, donc le même texte dans les deux langues. Ils peuvent comprendre la langue même sans traduction. Je vous demande, me demandez pas comment ça marche. C'est de la magie noire, c'est Google. Et donc, ils ont pu ajouter 24 nouvelles langues qui sont des langues très rares. Et c'est là que c'est intéressant. C'est des langues très rares qui sont peu parlées, qui sont parfois même peut-être, je ne sais pas si c'est le cas spécifiquement ici, mais on peut l'imaginer, des langues qui sont peut-être menacées de disparition. Donc ça, c'était intéressant. Ils ont aussi entraîné leur modèle de cartes en 3D à partir de photos. Et ça fait des modèles en 3D et des animations en 3D tellement poussées que, au-delà de la visite de la ville qu'on peut faire pour Google Maps, eh ben, ils ont même des sortes de parcours de drones dans l'intérieur de bâtiments qui sont recréés à partir de photos statiques. Et c'est très impressionnant parce qu'on trouve un magasin ou un restaurant dans la carte de Google Maps et puis on dit, je voudrais visiter l'intérieur du restaurant et on a une sorte on est la vue subjective d'un drone qui va voler dans le restaurant comme dans un film, c'était très impressionnant. Ils ont aussi un outil de résumé des documents longs qui s'appelle Automated Summarization, donc résumé automatique, qui sera disponible dans les Google Docs et qui fait effectivement juste un résumé d'un document qui est trop long. Donc si votre interlocuteur a oublié de vous intégrer un TLDR dans le document, vous pouvez le faire générer automatiquement. Évidemment, quand on veut les détails et bien comprendre la chose, il faudra quand même aller lire le document lui-même, hein, mais ça peut être utile et puis ça pourrait être intégré à d'autres services à l'avenir. Moi, j'imagine que ça pourrait être très utile dans certains mails, surtout ceux que moi, j'envoie, parce que j'ai tendance à en faire des tartines. Donc, résumé automatique, c'est un outil qui pourrait être utile. Les trucs les plus impressionnants, je crois que c'était le multi-search. C'est-à-dire que le multi-search, c'est un outil de recherche. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut, par exemple, prendre une photo et demander « Est-ce qu'il y a ça près de chez moi ?» Et ça peut être, par exemple, je prends une photo d'un plat. Et c'est l'exemple qu'il donnait dans la démo, on prend une photo d'un plat et on dit « Est-ce qu'il y en a près de chez moi ?» Il va vous sortir des restaurants dans lesquels on peut manger ce plat spécifiquement. Alors, à voir à quel point ça fonctionne ou pas. Et une autre technologie d'étude de photos avec Google Lens, c'est qu'on va prendre une photo d'un étal dans un magasin d'un rayonnage dans un magasin et il va analyser toutes les différentes tous les différents produits qui sont sur ce rayonnage et il va en sortir des caractéristiques communes et différentes. Genre, il peut lui-même tout seul analyser le nombre de calories, hein, je dis ça au hasard, mais il y a plein d'autres caractéristiques qui sont possibles, et vous dire bah, tel truc, vous afficher directement sur l'image, sans que vous n'ayez même à demander quoi que ce soit, bah, sur l'image, il va vous afficher les caractéristiques importantes et les différences importantes entre les différents produits. Ils ont aussi passé un bon moment sur le Monk Skin Tone Scale, qui est donc une échelle de ton de peau qu'ils utilisent maintenant, qui a été développée par un chercheur hein, qui s'appelle Monk. Et ils l'utilisent pour une énorme quantité de leurs produits et pour s'assurer que, d'une part, bah, je vais vous donner quelques exemples, sur les photos, les tons de peau soient bien représentés. On avait entendu parler de nombreux problèmes avec des tons de peau plus sombres qui étaient problématiques dans les outils de photo ou dans ce genre de choses. Pareil, dans la recherche, on va avoir des options. Par exemple, il donnait l'exemple du maquillage. Quand on fait une recherche sur tel ou tel type de maquillage, eh ben, si on a un taux de peau de peau très sombre, on va souvent pas pouvoir trouver des maquillages qui sont adaptés à notre couleur de peau. Et ça pourra devenir une option dans les recherches, notamment sur des recherches comme le maquillage. La dernière option dont je voulais parler, la dernière démo qu'ils ont fait dont je voulais parler, c'est des améliorations de l'assistant vocal, de l'assistant Google. Et ils ont fait des démonstrations qui étaient assez impressionnantes. Et si on va au bout de ce genre de choses, ça pourrait enfin rendre les assistants vocaux utiles, peut-être pour moi. Elle comprend désormais un langage qui est beaucoup plus naturel. Par exemple, dans la démo qu'elle faisait, elle disait « Est-ce que tu pourrais me trouver ?» Et là, à ce moment, l'assistant disait « Oui », genre pour simuler une conversation. Puis ensuite, elle dit « Donc, est-ce que tu pourrais me trouver le titre de Florence et quelque chose où elle chante de ça ?» Et quand je dis « de Florence et quelque chose », elle a vraiment dit « de Florence et quelque chose ». Et l'assistant a trouvé Florence and the Machine. Et elle a sorti le titre dont elle parlait. Elle était un petit peu plus précise que ça. Mais ce qui était impressionnant, c'était qu'elle comprenait quand la personne disait s'arrêtait et puis ne disait pas le nom du groupe complet. Puis il y avait aussi des histoires de phrases clés pour lesquelles on n'a pas besoin de dire le mot d'activation de l'assistant, que je ne vais pas dire ici pour ne pas vous déclencher vos assistants dans vos maisons. Mais les phrases clés, par exemple, ça peut être allume toutes les lumières du salon. Bah, on n'a pas besoin de dire le nom de l'assistant parce qu'on se doute bien qu'on ne parle pas à la personne qui est dans la pièce ou quelque chose. Ça, l'assistant va le comprendre tout seul sans avoir besoin de dire « ok, truc ». Donc, c'était une amélioration intéressante aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est recherche et intelligence artificielle. Il y avait quelques autres petites choses, mais déjà, ça fait beaucoup. Moi, je vous avoue que ça m'a mis un petit peu des étoiles dans les yeux. J'ai l'impression que c'est en même temps un peu ce que fait Google à chaque fois, ou parfois, c'est qu'ils font des trucs, ils montrent des trucs complètement incroyables, et puis, au final, soit ça ne se réalise pas, soit ça ne se réalise pas comme ça, soit ça prend très longtemps. Je ne sais pas, Marion, est-ce que ça t'a, toi aussi, en regardant un petit peu les détails là-dessus, ça t'a, toi aussi, convaincu, ou je me suis laissé embrigader, ou plutôt floué par la présentation de Sundar Pichai?
Bah, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on peut facilement s'emballer pour ces améliorations, mais en fait, c'est vraiment, est-ce que ça va être adopté? Tu vois, je suis un petit peu plus précautionneuse, on va dire, quand on dit bah, tu ne seras pas obligé tout le temps de citer l'assistant pour le déclencher. Comment il va reconnaître quelles sont celles qui peut reconnaître ou pas. Ce que je trouve plus
alors
intéressant
c'est spécifiquement
pour
ces phrases clés, hein, pour ces les.
Ouais, mais
phrases.
Voilà, c'est-à-dire que si tu les dis pas exactement comme ça, avec les bons mots, eh ben ça va pas fonctionner. Tu vois, ce qui serait super intéressant, c'est de pouvoir mêler le langage plus naturel avec pas forcément l'appel de l'assistant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le langage plus naturel, parce que c'est quand même la plus grosse barrière d'adoption, je trouve, des assistants vocaux aujourd'hui. Tu vois, hier soir, j'essayais de dire à Siri, parce que nous, c'est Apple, éteins les penderies, parce qu'on a deux penderies dans la chambre. Il y en a une qui s'appelle Penderie Jérôme et l'autre Penderie Marion. et dit, bah, éteins les deux penderies. Bah, si tu lui dis pas éteins Penderie Marion, éteins Penderie Jérôme, il n'est pas capable de comprendre qu'il faut éteindre les deux penderies, ce qui paraît quand même particulièrement stupide. Mais et tu vois, juste ça, pour moi, ça, Ça serait vraiment au quotidien des petites choses qui me simplifieraient la vie et où j'aurais pas besoin de me dire dans la vraie vie c'est stupide l'assistant vocal quoi.
Ouais. C'est vrai que ça reste assez rigide quand même. Ouais,
ouais ça reste assez rigide. Après, pour le reste, faudrait voir à l'usage en fait. Tu vois, visiter l'intérieur des restaurants, c'est pas forcément oui dans certains cas.
Voir à quoi ça ressemble, tu vois, quand tu cherches un resto. Ouais.
Généralement, quand je cherche un resto et que j'ai envie de voir l'intérieur, je trouve des photos du resto, tu vois. Donc, ouais.
C'est pas que c'est pas possible. Pas d'ailleurs, même dans Google Maps, tu vas voir des photos de l'intérieur du resto. Ouais, donc le fait de le visiter en 3D vidéo, c'est bon, un petit bonus.
Non,
ouais,
j'irai pas jusque-là, tu vois. J'ai pas tellement envie de voir l'intérieur du resto que de le visiter en 3D. Mais par contre, pour des monuments, pour de l'éducation, là, j'y verrai un vrai intérêt. Mmh. Donc, tu vois, c'est vraiment une question d'application, en fait, de la technologie et de trouver le domaine d'application qui va déclencher l'adoption et vraiment l'usage, quoi.
C'est vrai que, en l'occurrence, ce qui était impressionnant, c'est que cette modélisation, enfin, ce vol à travers le lieu en 3D était fait à partir de photos statiques. Donc, c'est ça qui était intéressant, qui peut ouvrir des possibilités. Pour revenir sur les assistants, je vais demander à Jeff, du coup, c'est vrai que maintenant, ça fait un moment, mais pendant un certain nombre d'années, on se disait, les assistants, ça y est, ça va être super intelligent, on va servir que de ça. J'ai l'impression que depuis quoi, 2-3 ans, c'est limite, on les met sous le tapis, on n'en parle plus vraiment, ils ne font pas partie des présentations de certains constructeurs. Tu t'en sers, toi, de tes assistants vocaux? Peut-être que tu t'en es jamais servi, mais...
Ah, je ne suis pas un gros utilisateur. La seule chose que je fais, c'est je demande à Alexa la température quand je suis à ma maison à Tao pour savoir comment il faut s'habiller pour aller faire du ski. En gros, c'est le seul use case que j'ai. Effectivement, il y a 5-6 ans, on parlait de la voix comme étant la nouvelle plateforme. Donc, on avait, en gros, la prochaine plateforme après le mobile. Il y avait des tonnes d'innovations, des tonnes de startups, des applications qui étaient construites autour d'Alexa, autour de Siri, etc. Et objectivement, nous, on n'a pas acheté le concept. Donc, on n'a pas investi dans ce domaine-là. Et très objectivement... il n'y a quasiment aucune des boîtes dans lesquelles qu'on avait vu pour un investissement qui ont marché quoi. Donc il y avait une promesse, mais à cause des limitations qu'on mentionnait, c'est pas suffisamment puissant, c'est pas suffisamment souple, il y a trop de limitations de syntaxe et ça a pas fonctionné. Bon, ça veut pas dire que ça fonctionnera pas, c'est sympa le fait qu'ils puissent améliorer, que par exemple, tu n'es plus besoin de mettre des mots-clés pour des applications précises et qu'ils comprennent en fait le conversationnel. Ça veut dire que ça va devenir plus puissant et on verra ce que ça donne. Ça peut peut-être, c'est un peu comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça fait 20 ans qu'on pense que ça va devenir mass market et c'est pas le cas. Donc, je pense que les applications continuent à devenir plus intéressantes.
J'ai l'impression que dans le cas spécifique des assistants vocaux, on n'est pas vraiment... On reste encore dans une sorte d'intelligence simulée où il faut adresser plein de cas spécifiques pour que ça soit utile. Et ce n'est pas qu'il y a une vraie compréhension intelligente du langage, c'est juste que quand on réussit à attraper tel et tel mot et telle phrase, on sait, dans ce cas spécifique, on comprend ce que la personne demande, et donc on peut lui livrer la réponse. Mais ce n'est pas qu'il y a une compréhension sémantique du sens de ce que dit la personne, donc c'est vrai que ça reste relativement limité quand même.
Tu vois, le truc que j'utilise le plus, en fait, sans même y penser, c'est maintenant je parle à ma télécommande pour chercher un truc sur Netflix ou sur Amazon ou sur Comcast. Et donc, je tape plus. Maintenant, je parle au truc. Donc,
ouais, il y a des applications quand même, c'est sûr.
Comme utilisation, mais c'est vachement pratique. Le problème, évidemment, c'est pour nous qui ne sommes pas natifs au niveau anglais, il faut qu'ils comprennent ton
Mais je dirais que ça, à la limite, c'est presque un autre type de technologie, parce que c'est pas de l'assistance, c'est juste de la transcription, de la reconnaissance vocale. Donc oui, c'est très important de comprendre bien ce que la personne dit, mais c'est une autre étape ensuite de l'analyser. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la compréhension est très très bonne, mais c'est l'analyse par l'intelligence artificielle qui laisse peut-être encore un peu à désirer, quoi.
Et en fait, c'est le point de vue un peu plus, je dirais, général. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est en gros, Google a fait un très très bon boulot en fait de connecter les différentes bases de données, sources de données qu'ils ont autour de ces différents use cases, de manière à ce que tu puisses avoir un raffinement en fait de la donnée qui est tel que bah, ça permet de faire des applications assez sympas, de dire bah tiens, je prends une photo d'un faux et j'essaie de trouver un faux autour de chez moi. Bah, c'est tout con, mais c'est pas mal. C'est
Ouais,
sympa
c'est pas
comme démo.
pratique, c'est sûr.
Donc, c'est vraiment, comment est-ce que Google, avec la masse de données absolument monstrueuse qu'ils ont capturée depuis 20 ans maintenant, réussit en fait à raffiner ces applications AI? Parce que tout est basé sur la donnée.
C'est là-dessus qu'ils sont très certainement les plus forts dans le monde et dans les sociétés de la tech. La gestion de la masse de données, c'est vraiment leur point fort, c'est sûr. L'autre aspect qui m'a beaucoup plu, même si les différents éléments restent un petit peu lointains, c'est donc la gamme Pixel. Et il y avait des choses qu'on attendait, des choses qu'on attendait peut-être. Bon, on attendait un petit peu tout, mais certaines peut-être un petit peu moins. On a eu d'abord le Pixel 6a qui va être disponible là très bientôt. Petite plaisanterie amusante. Donc, généralement, Google annonce un nouveau Pixel à la rentrée en septembre-octobre, et puis une version A moins chère au printemps. L'année dernière, c'était le 5 et 5A. Et pour le 5A, ils montraient, regardez, nous, on a un port jack, c'est bien mieux que les trucs des concurrents du côté d'Apple, mais machin truc. Et comme souvent dans ces cas-là, eh ben, le 6A, il n'a pas de port jack. Et évidemment, personne n'a mentionné cet petit élément. Donc, ils ont montré le Pixel 6A. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est comme souvent un bon téléphone du côté du Pixel. Ils ont teasé le Pixel 7 et 7 Pro, donc le prochain. Il y aura une nouvelle génération de processeurs Google, les Google Tensor, qui seront annoncés à la rentrée. On a les Pixel Buds Pro. Donc, des petits écouteurs sans fil qui ont pour le coup une réduction de bruit active, comme d'autres de modèles comparables. C'était intéressant aussi parce qu'au départ, les Pixel Buds étaient censés être la même qualité pour un peu moins cher. Et là, en l'occurrence, bah, ça va être un petit peu plus cher avec les Buds Pro, mais ils ont l'air bien. On a aussi la Pixel Watch qui est ronde comme on l'avait vu dans les leaks. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu une série de « Ok, mais qu'est-ce qu'on a là ?» puisque la Pixel Watch n'a pas vraiment été présentée en détail, elle le sera à la rentrée. Là, ils ont aussi présenté une Pixel tablette qui, elle, ne sera disponible qu'en 2023. Et ils ont aussi présenté une toute petite preview, là aussi technologiquement assez intéressante, de leurs prochaines lunettes de réalité augmentée. J'imagine qu'ils ne les appelleront pas les Google Glass, avec un mauvais souvenir pour ce produit d'il y a quelques années. Mais donc, les nouvelles lunettes de réalité augmentée qui avaient une application montrée, c'était la traduction en temps réel de ce que disait la personne qui était en face de vous, si elle parle une langue que vous ne comprenez pas, et ben c'est traduit non pas en voix, mais en sous-titres. Donc c'est vraiment, ça fait une bande de sous-titres dans les lunettes, avec un affichage donc surimprimé sur ce que vous voyez à travers les lunettes, et ça vous dit ce que la personne dit, traduit dans la langue que vous parlez. Donc c'était très impressionnant, mais là on n'a même pas de date, ils disent bah, c'est un travail, on est encore très tôt dans notre développement de cet appareil, et puis il n'y avait pas de détails du genre l'autonomie, combien de temps on peut l'utiliser, etc. Tout ça c'était vraiment presque un concept. Mais là, donc là vous pourriez vous dire, ok, mais donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est vrai, mais avec cet ensemble de produits et Android 13, ils ont beaucoup insisté sur l'écosystème et l'écosystème des appareils Pixel et donc l'écosystème d'Android, c'est-à-dire un petit peu à la suite d'Apple, il y a bah, le téléphone, la montre, les Buds et les tablettes. Ils ont beaucoup parlé des tablettes et de l'adaptation de Android et de d'app Google et de partenaires aux grands écrans, ce qui était vraiment le gros problème des tablettes sur Android, c'est qu'il n'y avait simplement pas d'app adaptée à ce type de format. Alors, on sait que depuis Android 12L, ils travaillent beaucoup sur les grands formats. Pareil avec Android 13. Mais là, on peut penser que vraiment, ils tentent pour de bon d'en faire. Ils voient la force de l'écosystème. Ils parlaient de comment tel appareil travaille avec tel autre, comment on peut avoir l'utilisation qui passe de l'un à l'autre, comme c'est le cas un petit peu chez Apple. D'ailleurs, on avait d'autres petits, comment dire, de petits ajouts qui lorgnaient un petit peu du côté de chez Apple. Hein, c'est de bonne guerre. Chacun pique les bonnes idées des autres. Mais on a par exemple Google Wallet qui est une nouvelle version, une ressuscitation de Google Wallet. Qui aura les cartes de crédit, bien sûr, mais pas que, les pièces d'identité, etc. Et quelques autres petits détails. Mais moi, ce que je retiens vraiment de cette présentation au niveau du matériel, c'est encore une fois le logiciel et la volonté de le faire travailler en véritable écosystème. On nous l'a peut-être promis avant, on a déjà eu des tablettes Google ou des tablettes Android en tout cas. Il y a même eu il y a Android Wear qui n'est pas tout nouveau, hein, qui existe depuis un moment. Me retourne vers Marion. Est-ce que tu y crois pour le coup ou est-ce que c'est un truc que Google nous fait miroiter et puis ils nous ont déçus par le passé plus d'une fois ? Que tu penses que ce coup-ci, c'est le bon et ils se mettent vraiment aux montres, aux tablettes, à tout ça qui travaille ensemble ?
C'est la question piège.
Attention, écoute, on va noter et puis on reviendra te voir, tu vois, dans quelques années, et on demandera des comptes.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la direction est la bonne. Je pense qu'on est tous d'accord pour le fait d'attendre une meilleure intégration, une meilleure communication entre les devices, que ce soit d'une marque ou d'une autre marque, mais qui tourne sur Android. Donc voilà, ça, je trouve ça vraiment bien. Maintenant, c'est difficile tant qu'on n'a pas testé vraiment et qu'on n'a pas eu dans les mains cet OS adapté à la tablette, la nouvelle montre avec l'OS. Moi, en tout cas, j'apprécie l'effort. Moi, j'ai toujours un petit faible pour les produits Google. J'ai connu la gamme Nexus, donc j'ai toujours un petit attachement émotionnel aux produits proposés par Google. Je trouve qu'en plus, le design des derniers téléphones, Alors, il n'a pas plu à tout le monde, mais justement, il est marqué, il est osé, il a une personnalité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a une personnalité. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un chouette parti pris. Maintenant, honnêtement, je reste très dubitatif des annonces et surtout du calendrier annoncé des sorties. Je ne comprends pas pourquoi il faut une conférence début juin pour avoir une précommande, une précommande fin juillet. Notamment pour le Pixel 6a le 21 juillet, donc on ne sait pas ce que ça veut dire pour la disponibilité des téléphones. Généralement, on communique sur la disponibilité du téléphone avec une précommande quelques jours avant. Là, on n'a pas de date de disponibilité. Pareil pour les Pixel Buds Pro. Donc du coup, on a le temps de les oublier en fait d'ici là. Ouais. C'est ça que je trouve vraiment ça très étrange. Pareil, le Pixel 7. Pourquoi montrer quelques images du Pixel 7 qui va sortir à l'automne et couper l'herbe sous le pied du Pixel 6 qui aurait pu encore se vendre pour ceux qui ne sont pas forcément au fait du calendrier. Bon, tu vas me dire, ceux qui ne sont pas au fait du calendrier des sorties ne vont peut-être pas avoir entendu parler du Pixel 7, mais je trouve ça un peu... Je ne comprends pas trop la stratégie des dates annoncées. En fait, c'est plutôt là où je suis un peu dubitative.
C'est vrai que ça fait un peu... Au final, on n'a rien du tout à se mettre sous la dent et on se demande effectivement pourquoi ils ont présenté tout ça. Peut-être parce qu'ils voulaient présenter des choses et montrer des choses. Mais c'est vrai que là, j'y pensais plus, mais c'est vrai que le Pixel 6, c'est précommande dans quoi, un mois ou deux. Et puis, ouais, ça fait un petit peu long. Jeff, est-ce que toi, peut-être au niveau communication, ils se disent il faut qu'on montre qu'on sait faire des choses, qu'on a des choses qui arrivent, c'est un exercice de brand building. Pourquoi est-ce que Google aurait présenté tous ces produits qui ne sont pas disponibles parfois pour plusieurs mois, voire un an, quoi ?
Je ne sais pas. Puis effectivement, ça fait 12 ans qu'on a eu le premier iPad, ça fait 8 ans qu'on a eu la première Apple Watch, et donc le fait qu'ils sortent un truc qui permet de faire marcher une tablette et une montre... genre après la guerre, c'est un peu bizarre, quoi. Donc j'ai jamais vraiment, mis à part les Google Glass qui étaient vraiment sympas et innovantes en leur temps, vraiment créé un nouveau phénomène dans ce
ouais,
marché-là.
Qui n'a pas duré en même temps.
Qui n'a pas duré, mais ils étaient clairs que c'était une expérimentation et c'était un produit qui n'avait pas en fait d'application réelle. C'était plus, bah voilà, on va essayer de voir ce que ça veut dire d'avoir des gens qui se baladent avec une caméra
sur les lunettes, ouais.
Sur la tempe et voir ce que ça veut dire. Et donc, j'ai jamais vraiment été un grand fan des produits Google au niveau hardware. Je suis un gros utilisateur de Nest, mais c'est une boîte qu'ils ont rachetée. Et donc, je fais même pas attention en fait à ce qui se passe du côté Pixel, du côté.
Ce qui est notable là, à mon sens, c'est le fait que justement ils soient partis en retrait des tablettes, des montres, etc. Et que là, ils y reviennent en se disant, ok, il y a un marché, peut-être qu'on va s'y intéresser plus sérieusement. Tu vois, c'est ça qui me frappe. Et là, dans le cas de la tablette et de la montre, c'est genre, si on est là, mais on est là, on vous le dit. Mais vous pouvez rien toucher, vous avez rien là tout de suite. Alors la montre, elle arrive à l'automne, on imagine qu'elle existera.
Faut pas oublier quand même les énormes problèmes qui existent aujourd'hui au niveau supply chain. Et même Google, même Apple en sont victimes. Le fait qu'ils te disent, bah voilà, c'est du on fait de la prévente parce qu'en gros, on ne sait pas quand est-ce qu'on va toucher les trucs. Nous, on avait le cas, j'ai une boîte qui typiquement reçoit ses produits à peu près un mois après avoir été shippé depuis la Chine. Donc, c'est un bateau, ça met un mois. Et ben, en ce moment, ça met 5 mois. D'accord. Et à la limite, si tu ne payes pas plus que tu avais contracté, tu ne vas pas avoir les trucs qui sont mis sur le bateau. Donc, aujourd'hui, c'est un tel bordel au niveau global que j'imagine qu'ils ont le même problème, ils savent pas trop quand est-ce que les disponibilités vont s'ouvrir.
Peut-être qu'ils avaient prévu il y a un an quand ils ont commencé le processus de les avoir disponibles maintenant et qu'ils se rendent compte que bah il y a des retards et du coup bah, ils veulent en parler quand même. Mais et puis c'est pas qu'ils ont mis l'occasion dans l'année d'en parler. Hein, la Google I/O, tous les yeux du monde sont sur Google, enfin du monde tech en tout cas. Donc oui, on peut imaginer que ça a été retardé à cause de
j'ai pas d'infos en interne, mais s'il y avait en fait une incertitude sur les dates de livraison et donc ils voulaient effectivement lancer le truc, ils l'annoncent à Google I/O parce que c'est leur opportunité, et après ils disent bah on va le lancer dans quelques semaines et puis après ce sera disponible quelques semaines après, on espère, ce serait pas complètement idiot.
Ouais, effectivement.
Et puis, quant à leur revenu sur le fait qu'ils reviennent sur le marché, bah effectivement, c'est un énorme marché. Le problème, c'est comment tu différencies. Est-ce que c'est une question de prix, de fonctionnalité, d'intégration? Et peut-être que pour les gens qui sont tout Google, ils offrent une intégration sympa. Bon, je veux dire, ça fait, c'est un peu. Pour moi, c'est plus personne fait vraiment attention à ça. Si jamais tu veux une montre, bah, t'en achètes une et tu choisis celle qui est fonctionnellement qui répond à tes besoins ou qui est dans ta gamme de prix.
Et petite question, Patrick, concernant la Pixel Watch, puisque toi, tu es un utilisateur de l'Apple Watch, tu en penses quoi? Tu serais tenté? Tu aimes bien le design?
Bah écoute, alors au niveau du design très spécifiquement, moi je préfère une montre ronde à une montre rectangulaire comme celle de l'Apple Watch. Je trouve que le design n'est pas bon sur l'Apple Watch, enfin je la trouve moche. Maintenant, la Pixel Watch, on en connaît trop peu. Tu vois, on a vu très très peu de choses dessus. Bon, de toute façon, je suis dans l'écosystème Apple, donc ça serait compliqué d'y intégrer une montre Android. Mais ils ont racheté Fitbit, donc il y a de quoi faire au niveau santé. Le marché est relativement défini, même s'il n'est pas monolithique. On a des utilisations de l'Apple Watch qui sont assez éprouvées. On n'est plus à l'époque où Johnny Ive voulait en faire simplement un outil de fashion un petit peu ridicule. Donc je pense que oui, pour l'écosystème Android, ça sera une alternative, vraiment, enfin une proposition intéressante. Aujourd'hui, il y a Samsung qui réussit à faire vivre son écosystème avec tous les éléments dont on parle là. Et puis, il y aura Google avec les pixels. Peut-être que ça inspirera d'autres constructeurs. Moi, je pense que c'est la voie pour Android, pour avoir un petit peu de croissance, de la même manière que ces accessoires de l'iPhone ont amené de la croissance à Apple. Bah là, ça peut amener aux constructeurs Android une sorte de perspective pour vendre plus de trucs à leurs clients, quoi. Je pense que c'est l'idée. Mais moi, la Watch, oui, c'est difficile à dire parce qu'on ne l'a pas vue en détail, mais au niveau design, je la préfère largement. Enfin, je préfère les montres rondes, quoi. Montres ouais. Carrées, je trouve ça un peu moche.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. On a l'impression que maintenant, pour être pris au sérieux sur le marché, il faut obligatoirement avoir smartphone, écouteurs sans fil, montres connectées et tablettes, quoi.
Bah oui, ces différents éléments qui rendent des services, alors pas autant que le téléphone, mais qui rendent des services aux utilisateurs. Et pour que ça marche vraiment, il faut que ça soit un écosystème. Des trucs tout bêtes, hein, mais on a les écouteurs dans les oreilles, on utilise le téléphone, on écoute quelque chose sur le téléphone, on passe sur la tablette, bah, il faut que le son commence à venir de la tablette. Sinon, c'est hyper pénible de devoir reconnecter, machin, non, non, maintenant je suis là. Non, c'est... Et donc, l'écosystème est en fait une fonction de la multiplication des appareils, quoi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette Google I/O.
Oui. La fonctionnalité, bon, si tu cherches la partie plutôt santé, je dirais que soit un Fitbit, soit un Whoop sont probablement des solutions plus intéressantes parce que les montres durent plus longtemps en termes de batterie, tu n'as pas besoin de les charger tous les jours. Et puis maintenant, tu as plein de fonctionnalités qui sont quand même assez riches. Et donc, en fonction, si c'est ce que tu recherches, il y a une très bonne intégration au niveau du téléphone. Donc, si c'est ce que tu recherches, j'imagine que tu iras chercher dans ces fournisseurs spécialisés.
Je ne sais pas, parce que moi, par exemple, j'ai acheté une Apple Watch à ma maman, qui est plus toute jeune. Et il y a plein de fonctionnalités. Et, disons que, bon, d'une part, c'est ce que je connais le mieux. Et puis, d'autre part, c'est pas que un truc de santé. Elle me répond maintenant au téléphone quand je l'appelle sur sa watch. Elle est toute contente. Il y a des petites fonctionnalités sympas avec les notifications. Enfin, tous les trucs en question. La détection de chute, ce genre de choses, qui est une raison importante de mon achat. Et je sais pas si les autres appareils font ce genre de choses. Et à vrai dire, le fait que peut-être qu'ils le font, mais le fait que je ne le sache pas, je me dis, bon, bah, je vais prendre le truc que je connais et ça va être plus simple.
Oui, c'est tout à fait logique, parce que si tu veux, en gros, démerder ta maman c'est parce qu'elle est coincée dans un truc, etc., tu sauras exactement le faire.
C'est ça.
Et effectivement, un Fitbit, le Whoop, je ne sais pas, mais Fitbit fait tout ça. Mais la grosse différence, c'est que bah, tu dois mettre ta montre à charger tous les soirs pour qu'elle soit chargée pour le lendemain, alors que moi, j'utilise Fitbit pour regarder mon rythme circadien, comment est-ce que la qualité de mon sommeil, mon oxygénisation pendant la nuit. Et tu ne peux le faire que si tu as la montre au poignet toute la nuit.
Ça, c'est vrai. Mais écoute, tu sais quoi ? Depuis 2-3 semaines maintenant, j'ai encore plus petit, et j'en parlais dans un épisode précédent, j'ai une bague. La bague Oura, je sais pas si t'as... Ouais, exactement. J'ai commandé une Oura, et donc, parce que du coup, j'ai pas besoin de la montre, j'ai ma bague au doigt, et okay. Elle fait tout ça. Donc, et elle tient aussi une semaine en batterie.
Donc, ça, c'est Madame Clavier, cette solution-là, effectivement. Ouais. Elle est partie sur la bague.
C'est ça. Donc maintenant, je veux dire, on frise, voire on explose les portes du ridicule, parce que j'ai le téléphone, la montre, la bague, l'iPad, tu vois, quand on aura les lunettes aussi, ça sera... Enfin, on commence à se cyborgifier, c'est un petit peu ridicule. Moi, j'en suis conscient. Hein. Et je suis déjà marié, donc j'ai pas besoin d'attirer une femme, tu vois. C'est pas... Ça peut être un repoussoir, c'est pas trop grave. En plus, elle trouve ça marrant, donc ça va. Bah écoutez, comme je le disais, je pense qu'on a fait le tour de la Google I/O et on va donc continuer avec le reste de l'actu de la semaine. Je vais quand même, avant ça... Vous rappelez que l'émission est financée par la pub d'une part, mais vraiment le gros financement de l'émission, c'est vous, c'est les gens qui écoutent l'émission et qui, comme ils le faisaient peut-être à l'époque, s'ils sont assez vieux, où ils achetaient des magazines, filent quelques euros à la publication en question pour apprécier, pour lire le contenu ici. C'est une solution encore meilleure, puisque ce n'est pas tout le monde qui est obligé de payer, c'est seulement ceux qui le souhaitent. Et si vous appréciez l'émission, peut-être que vous vous direz, bah, moi, je veux devenir un utilisateur actif, un contributeur au rendez-vous tech. Et ça vous donnera plein de choses super cool, comme par exemple des contenus bonus, des émissions sans pub, des timecodes pour aller au sujet qui vous intéresse le plus. Enfin bref, il n'y a que des avantages à devenir patriote. Bon, non, c'est pas vrai. Il y a un des avantages, c'est que ça vous coûte un petit peu d'argent. C'est vrai. Donc ça, c'est peut-être un des avantages. Mais les avantages, c'est les contenus bonus et les flux un petit peu améliorés. Et en plus, la fierté d'être quelqu'un, non pas de soutenir le rendez-vous tech spécifiquement, mais de soutenir un créateur que vous appréciez. Peut-être d'ailleurs qu'il y a d'autres créateurs sur Patreon que vous appréciez et qu'en créant votre compte sur patreon.com/rdvtech, eh ben, ça vous donnera l'occasion peut-être de soutenir d'autres personnes. Et c'est une démarche qui me paraît assez importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Sachez que la pub, ça, si on ne repose que sur ça, ça peut vraiment compliquer les choses. Et pour moi, c'est une force vraiment importante de pouvoir me reposer sur le soutien des auditeurs pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi, justement. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous tech. Quand vous arrivez chez vous, les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites cling. Ah, Patrick, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, le reste de l'actu, on y va. Et j'ai presque envie de dire, malheureusement, on est bien obligé de reparler un petit peu. Et je voulais, généralement, je les mets en fin d'émission. Hein. Elon Musk, Bitcoin, tout ça, ça commence à bien faire. Il faut en parler parce que c'est important. Je vous avoue que ça me saoule un peu. Mais il faut le faire. Et aujourd'hui, comme on a Jeff avec nous, je me suis dit qu'on allait parler de ça juste maintenant, début du reste de l'actu. Puis on aura plein de news supplémentaires. Si vous êtes patriote, vous pouvez aller aux news d'après avec le timecode. Mais... mais Elon Musk fait encore des siennes et il y a eu des tonnes de choses qui se sont passées avec son rachat de Twitter. La dernière en date, c'est qu'il a tweeté que le deal était on hold, donc il est en pause, le deal de rachat, parce qu'il veut avoir plus d'informations sur le taux de bots qu'il y a sur Twitter, suite aux informations qu'ils ont publiées légalement, etc. Alors, c'est horripilant parce que, d'une part, il ne peut pas mettre le deal on hold, il ne peut pas mettre en pause. Enfin, il a un accord, il a dit « je vais acheter Twitter, je réunis l'argent, j'achète Twitter ». Ou alors, il y a des causes, si on ne fait pas le deal, celui qui le casse doit payer 1 milliard à l'autre partie. Donc, c'est pas on hold. Et en plus, c'est très certainement illégal au niveau de la SEC, la Securities and Exchange Commission. Il n'a pas le droit de dire ce genre de choses parce que ça peut avoir une influence sur le cours. Et d'ailleurs, ça a eu une influence sur le cours de l'action. Enfin, tout un tas de trucs. J'ai entendu des gens décrire Elon Musk comme une sorte de, vous savez, le copain abusif. C'est une situation complètement intenable et il continue à être insupportable et à causer de la détresse à la personne. Et puis, il continue, enfin, il s'en fout des lois, il s'en fout des règles, il fait ce qu'il veut. Du coup, Jeff, bon, nous, ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on parle de cette histoire. Je crois même qu'on avait parlé il y a un mois avec toi. Comment tu le vois, le truc? Personne ne sait si ça va se faire ou pas, là on ne sait plus rien, quoi. Plus personne ne comprend rien. Comment tu le vois ces dernières semaines et ces derniers développements-là avec Musk?
C'est Elon qui est Elon, quoi. Donc, comme tu dis, il se fout du cadre légal. Donc le concept de deal is on hold, le deal est en attente d'informations, ça n'existe pas, c'est pas prévu dans les papiers qu'il a signés. Donc. Peut-être que dans sa tête, c'est on hold, mais c'est pas le cas. Effectivement, quasiment chaque jour qu'il tweet à propos de ce deal, d'une façon ou d'une autre, il change le cours de l'action Twitter. Ce qui aujourd'hui, en ce moment, c'est à 38,26, alors que normalement, il devrait être proche de 54, qui est le prix auquel le deal est, doit se faire. Donc ça veut dire que le marché...
C'est l'offre de Musk.
C'est l'offre de Musk, donc le marché part du principe que le deal ne va pas se faire. Je ne sais même pas combien de fois il est passé au travers des lois et des règles et de ce que la SEC attend qu'il fasse. Donc clairement, il se met à dos énormément de raisons pour que les gens l'attaquent en justice. Il y a déjà eu plein d'attaques en justice. Il est en train d'être... une investigation sur le fait qu'il a accumulé, on en avait parlé la dernière fois, il a accumulé donc sa position de 9% sans déclarer. Et normalement, une fois que tu atteins 5% d'une boîte publique, tu es censé déclarer immédiatement. Alors que là, il a pris, je ne sais pas, 10 jours de plus pour le faire. Donc ça veut dire que ça, il va clairement être attaqué à cause de ça. Et donc tu te demandes, si on est dans un espèce d'univers parallèle où l'homme le plus riche du monde se crée en fait un environnement où il fait un peu ce qu'il veut. D'accord ? Parce que c'est ça, il se fait un caprice, il a décidé qu'il voulait s'acheter Twitter, il a décidé qu'il voulait en gros réguler ce service, qui est quand même un service d'information fondamentale, et tu te demandes en fait ce qui va se passer une fois qu'il a effectivement clôturé ce deal. Là, à mon avis, ce qu'il fait, c'est ce que tout le monde dit, c'est qu'il essaie de trouver une solution pour payer moins cher, donc il va revenir avec un deal en disant « Oh, bah, il y a plus de bots que ce que je pensais, l'action, elle n'est pas aussi haute, le machin, le truc, et donc j'achète Twitter, mais pas à 44 milliards, je l'achète à, je sais pas moi, 35 milliards, un truc comme ça. » Et on verra ce que le board de Twitter décide de faire, mais clairement, c'est le bordel. Et pour moi, le fait que ce soit le bordel avant... c'est un préambule du bordel que ça va être après. Parce que Dieu seul sait qu'il va se faire. Je veux dire, a priori, au début, il pensait faire rentrer un CEO avec qui il aurait une affiliation. Et puis maintenant, en fait, c'est lui qui va être le patron. Et je pense que, comme on l'a vu avec Jack, qui était le patron de Block et de Twitter, tu peux pas être patron de Twitter à temps partiel. Et même s'il est incroyablement... intelligent, il n'aura pas la bande passante pour gérer Tesla, pour gérer SpaceX, pour gérer Boring Company, pour gérer Twitter. Et donc, ça va être un gros, gros merdier. Et aujourd'hui, il y a une énorme fuite de talents. Alors, objectivement, nous...
Oui, il y a deux execs qui se sont fait virer par Agrawal, là. Enfin, deux personnes assez importantes.
Ouais, le patron de la monétisation, puis Kevin, qui était le patron du produit. Donc ça, c'est pas super clair pourquoi ça s'est passé. Objectivement, ils auraient pu partir au moment où Parag est devenu CEO, c'est pas le cas, donc bon, pas clair pourquoi ça se passe, mais c'est pas tellement en fait les têtes qui m'importent, c'est le fait qu'aujourd'hui, t'as plein de gens qui sont en train de chercher des boulots parce qu'ils n'ont pas du tout envie de travailler dans un Twitter post-Elon.
C'est assez flagrant sur Twitter notamment. Hein. Tu peux voir plein de posts, enfin plein de posts, moi j'en ai vu quelques-uns, de posts d'employés Twitter ou d'ex-employés Twitter qui sont très inquiets. En tout cas, les mouvements, la presse, etc., c'est étrange parce qu'en fait, il fait fuir l'équipe là. Alors, soit il se dit, ils sont tous nuls, je m'en fous, je vais réembaucher mon équipe, soit il se rend pas compte de l'impact de ses mots sur le moral de l'équipe. C'est un petit peu étrange. J'ai du mal à suivre aussi ici. C'est en fait, est-ce qu'il va racheter une coquille vide? Est-ce qu'il veut juste acheter la tech et mettre d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance du produit pour le reprendre? Ce qui va être quand même assez compliqué. C'est un petit peu étrange.
Je pense qu'il s'en fout de qui est... il en fait qu'à sa tête. Il a insulté des responsables. Il a envoyé ses armées de trolls également. Mais le truc, c'est que si... Ce qui compte dans Twitter, c'est le fait qu'ils sont déjà établis et que la plateforme est déjà ce qu'elle est et qu'elle est utilisée pour ce qu'elle est. C'est hyper difficile de passer à une autre plateforme. Donc, s'il était possible, ce qu'il rachète, c'est le nom et la comment dire, la notoriété, l'utilisation de Twitter. Sinon, il aurait pu commencer un autre réseau lui-même. Il ne peut pas faire ça s'il veut un truc qui soit
un concurrent de Twitter. Pour, pour maintenir Twitter, tu as quand même besoin d'une équipe qui a la connaissance de Twitter. Donc, tu n'as pas envie non plus que toute l'équipe se barre.
C'est sûr, c'est sûr. Je crois qu'il ne réfléchit pas si loin. Enfin, on n'en sait rien. Qui sait ce qui est dans la tête de d'Elon Musk ? J'ai une autre question. Est-ce que l'action Tesla s'est quand même cassée la gueule ? Elle a perdu genre 30% ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, elle était très, très haute, donc c'est peut-être pas si surprenant que ça, mais il y a quand même clairement une préoccupation de ce qu'est en train de faire Elon Musk. Est-ce que ça pourrait être une raison pour qu'il annule son deal, même peut-être à la limite en payant son milliard, et qu'il se reconcentre sur Tesla ? Ou est-ce que là, c'est trop tard, il est trop engagé ? Enfin, on n'en sait rien, mais...
Bah, de toute façon, il est trop engagé. De toute façon, si jamais il décide de ne pas clore le deal, il va payer son milliard. Et puis voilà, puis de toute façon, il ne le paiera pas le milliard. Il va trouver des solutions, il va trouver des raisons pour ne pas le payer. Ça va rentrer en procès, ça va durer 5 ans, etc. etc. Je veux dire, c'est. C'est pas parce que tu as promis que tu vas payer un milliard quand il est Elon Musk que tu vas payer un milliard. Ouais. Effectivement, le problème qu'il a, c'est que le deal qu'il a offert pour racheter Twitter pour 44 milliards, il y avait un prêt en utilisant ses actions Tesla en garantie, ouais. Et l'action s'est cassée la gueule de plus de 25 ou 30% depuis qu'il a fait l'offre. Et donc, ça veut dire que le montant de stock Tesla qu'il doit mettre dans la balance est beaucoup plus important, et il doit se dire, merde, c'est quand même une grosse partie de mes stocks, et donc un margin call, comme on appelle dans le métier. Quand tu dis, bah voilà, je mets en place un prêt avec mes stocks en collatéral et puis les stocks se cassent la gueule, donc ça veut dire qu'il faut que j'en mette de plus en plus à disposition. Je veux dire, je pense pas que ça l'amènerait à utiliser toutes ces stocks Tesla, mais ça devient dangereusement possible. Et donc, ce serait une situation très très difficile. Donc, il est en train de refinancer. En fait, il a changé la structure du financement. Donc, aujourd'hui, il a été chercher du financement privé, soit de gens qui sont aujourd'hui des investisseurs dans Twitter, en disant bah, ne vendez pas vos actions, gardez en fait vos actions Twitter pendant que la boîte passe en privé. Et puis, il y a plein de boîtes de VC qui ont dit, bah voilà, je vais acheter un milliard ici, un milliard. Mais bon, le problème, c'est qu'il vous arrive à 44 milliards. Et donc, il est en train de changer sa composition, en fait, des 44 milliards, de manière à ne pas avoir à utiliser ce stock Tesla de façon aussi importante.
Ouais. Bon, bah écoutez, on continuera à en parler, j'en suis sûr. Un autre truc que je voulais évoquer aussi, avant que tu nous quittes, Jeff, c'est cette histoire de... Alors, on parlait la semaine dernière des bitcoins qui sont cassés la gueule. Ils sont d'ailleurs passés sous la barre symbolique des 30 000. Ils sont descendus à 26 000 $ le bitcoin. C'était vraiment la plus... Il y avait beaucoup de gens qui pensaient 30 000, c'est le plus bas et ça ne descendra pas plus bas. Mais bon, bref, on ne va pas reparler de bitcoin. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est les stablecoins. Et les stablecoins, vous vous souvenez peut-être, si vous écoutez l'émission, c'est un type de token, un type de crypto-monnaie spécifique qui est censé être indexé sur la valeur de quelque chose de stable, que ce soit une autre monnaie réelle ou alors une valeur comme on peut imaginer de la valeur de l'or, etc. Et il y a un stablecoin qui s'appelle, alors c'est un ensemble, c'est Terra, Luna, il y a un token, il y a un stablecoin, il y a un écosystème qui est censé, on est censé pouvoir acheter un Terra qui est l'équivalent de 1 $. Et le système pour garder, indexer le Terra au dollar était censé être, alors algorithmique, mais était censé tenir. Et il se trouve que depuis une semaine environ, c'est au moment où on a enregistré la dernière émission, eh ben, le Terra s'est cassé la gueule. D'abord, il est un petit peu descendu en dessous du dollar, à 90 cents, puis il a continué. Aujourd'hui, il est à 0 cent, il ne vaut plus rien. Et c'était une monnaie, n'oubliez pas, le stablecoin, c'est censé être un type de crypto-monnaie qui est beaucoup plus sûr pour faire du commerce, pour avoir une stabilité, parce que l'absence de stabilité, c'est un gros souci chez les crypto-monnaies. Et le stablecoin, c'est censé être justement pallier, un truc qui pallie à cette instabilité. Et le fait que Terra se soit cassé la gueule de cette manière, bah c'est très très problématique. D'une part, il y a des gens qui ont perdu beaucoup beaucoup d'argent. Et puis, ça pose la question sur tous les stablecoins dans leur ensemble. Alors, Terra fonctionnait de manière algorithmique, il y avait une sorte de système de vase communicant entre Terra et Luna, ils étaient censés avoir des avoirs qu'ils pouvaient utiliser pour changer les cours, et puis ils pouvaient brûler des tokens pour changer les cours aussi. Bref, c'était très algorithmique, mais les autres stablecoins qui sont censés être beaucoup moins algorithmiques, on se rend compte que là où ils disaient bah, on a pour chaque, par exemple, un Tether, Tether, ça veut dire le lien. Hein, donc, on avait des USDT. Je crois que c'est ça le nom dans la crypto. Donc, les USDT, c'était censé être un USDT vaut $1. Et pour ça, il disait, bah, on a, enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il disait, bah, on a pour chaque USDT créé, on a $1 en banque. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas le cas, qu'ils n'avaient même pas assez de Bitcoin, et puis que la fluctuation du... Enfin, ils disaient, OK, mais on a plein de Bitcoin, OK, mais le Bitcoin, ça fluctue, et puis vous n'en avez pas assez pour couvrir l'ensemble des USDT en circulation. Enfin, il y a plein de questions sur les stablecoins. C'est le pendant de ce dont on parlait la semaine dernière, la chute des crypto-monnaies et des NFT, enfin, tout ça. Qu'on associe effectivement à une chute des avoirs en général. Alors, la bourse s'est un petit peu cassée la gueule, le Nasdaq, le S&P 500, tout ça, beaucoup moins quand même que ce qu'on voit dans les cryptos. Je sais, Jeff, que tu n'es pas hyper fan de ces implémentations d'une technologie intéressante, hein, parce que personne ne nie que la technologie est intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est l'application. Je me demande si tu sens, toi, dans la Silicon Valley où tu es, une sorte de désintérêt pour le monde des cryptos, ou est-ce que ça reste un truc, comment dire, qui est extérieur aux intérêts des investisseurs et des gens que tu fréquentes ?
Non, il y a toujours... En fait, c'est... je pense que là, ce qu'on voit dans le monde crypto et Web 3.0, c'est un peu un... Je ne sais pas comment tu dis « reckoning » en français.
Le jour du jugement, quoi.
Ouais, je ne sais pas si c'est le jour du jugement dernier, mais en tout cas, effectivement, quand tu parlais de crypto et que tu exprimais des doutes, comme je l'ai fait depuis le début, on me dit « ah ouais, mais tu comprends, c'est parce qu'il n'y a pas d'inflation et donc la crypto, machin. Mais quand il y aura de l'inflation, la crypto, ça marchera vachement mieux et ça ne descendra pas. » Bon, tu vois Bitcoin à 26 000. Et puis après, c'est « ah ouais, mais bon... Bitcoin et Ethereum, effectivement, c'est volatile, mais les stablecoins, c'est pas volatile. Et tu dis, mais comment... Explique-moi, sans utiliser de jargon, comment ça va marcher. Et effectivement, tu te rends compte que l'idée était pas mauvaise, mais dans la pratique, ça bug de folie. Et une fois que le système commence à être en manque de balance, et bah
l'équilibre.
L'équilibre devient de plus en plus instable, et puis bah, comme tout régime instable, en fait, au bout d'un moment, ça pète, quoi. Et donc, ouais. C'est ce qui s'est passé. Ils ont cramé leurs 3 milliards de bitcoins de réserve sur Terra, et Terra, qui était censé être un... Et j'ai des copains qui avaient investi dans la boîte qui était derrière Terra, j'avais des copains qui avaient acheté dans le token, etc. Et effectivement, bah, ça vaut zéro, quoi. Et ils passent de quelque chose qui valait sur le papier des milliards à zéro. Et malheureusement... C'est ce qui va se passer pour énormément de projets dans le domaine du Web 3.0. Et il y a un Gus qui a posté il y a une journée ou deux jours. J'avais un job stable chez Citadel, j'ai quitté pour aller dans ce Web 3.0 qui est en train de me virer. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, en gros, c'est ça, quoi. Il y a clairement quelque chose. Il y a des milliards qui ont été investis à la vitesse de la lumière dans les boîtes du Web 3. Parce que s'il y a un domaine aujourd'hui qui voit encore énormément de financement et où des fonds sont levés avec des tailles de fonds énormes, c'est la crypto et c'est le Web 3.0. Mmh. Donc, tout le monde continue à aller dans ce domaine-là, mais je pense que là où je pense qu'il y a des applications intéressantes et il y a des projets intéressants, il y a trop de cochonneries qui a été mis en place et d'argent qui a été levé de façon qui n'a strictement aucun sens, pour que ce qu'on voit aujourd'hui sur Terra se passe pas. Et de toute façon, tu as le premier Terra, mais c'est pas le dernier, quoi. Alors, aujourd'hui, compare le Gus qui a été à l'instigation donc de Terra à Elizabeth Holmes, donc en disant bah il a menti, il savait que ça marchait pas, etc. Et donc il est comme elle. Mais je pense que ça va être le cas pour énormément de projets.
Ouais. Bon, je sais que tu dois filer, je veux encore en dire quelques mots, mais je vais te laisser partir. Yep. Je suis un petit peu sur cette ligne aussi. Merci d'avoir été avec nous, Jeff. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain.
Avec grand plaisir. Salut, salut.
Ciao, ciao. À Jeff sur Twitter, évidemment. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Marion ?
Non, 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 je suis assez alignée avec ce que vous avez mentionné, justement.
C'est marrant parce que sur la question de... alors, à chaque fois que j'en parle, que ce soit sur Twitter ou dans l'émission, je le dis parfois, il y a des auditeurs qui me disent « Mais écoute, pourquoi est-ce que tu étais si négatif sur les cryptos ?» et beaucoup de gens pensent que je ne comprends pas le fonctionnement de ces technologies. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ne conçoivent pas qu'on puisse, et pourtant vous vous en souvenez, hein, depuis des mois et des années qu'on en parle, j'ai pas été hyper négatif par principe sur la technologie, ni même sur ses applications. Moi, je regarde les choses de manière aussi objective que je peux, et ça me surprend, enfin ça me surprend pas vraiment, mais il y a des gens qui me disent que je ne comprends pas et qui ne réussissent pas à accepter que je puisse, alors peut-être que je me trompe, hein, je dis pas le contraire, mais que je puisse comprendre la chose et faire une analyse rationnelle pour moi, simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec mon analyse. Ils veulent absolument que la raison pour laquelle je ne crois pas à la plupart de ces projets, ça soit que bah, y a un truc que je ne comprends pas, ou il y a un truc que, qui, comment dire, que je suis biaisé contre la chose, etc. Je peux vous assurer que je comprends très très bien la technologie, enfin aussi bien.
Sinon,
que...
il faut qu'ils t'expliquent ce que tu ne comprends pas. Enfin, ça ne suffit pas de dire que tu ne comprends pas.
Je t'avoue que c'est le genre de conversation dans lesquelles je me suis lancé par le passé à de nombreuses reprises. J'ai plus très envie de le faire parce que c'est des choses qui tournent en rond très très vite, tu sais. Mais le monde des cryptos et des NFT et de tous ces projets, c'est intéressant parce que les gens vont me dire oui, mais regarde, la bourse, tu peux aussi perdre ta chemise, ça peut être aléatoire, etc. Et. On n'a pas la même échelle d'aléatoire. C'est-à-dire que la bourse, d'une part, il y a des régulations très strictes. Les sociétés sont obligées de révéler certaines informations, d'avoir des détails sur leur fonctionnement. Enfin, c'est justement pour éviter que un quidam qui veut investir dans une société ne perde sa chemise. Là, on a... Enfin, c'est le monde des cryptos, c'est des projets qui se lancent avec des demandes d'investissement qui sont importantes. Des millions, des milliards, comme le disait Jeff, et les gens qui sont derrière, ces quatre avatars qui n'utilisent pas leur nom. Quand je dis avatar, c'est souvent des NFT ou des images bizarres, et des gens qui n'utilisent pas leur vrai nom. Quand une journaliste a réussi à retrouver le nom des fondateurs du Bored Ape Yacht Club, à l'origine de l'un des NFT, des groupes de NFT les plus importants, la communauté des cryptos s'est retournée contre elle et l'a accusée d'avoir doxé des personnes, tu vois, alors que c'est des gens qui brassent des milliards maintenant. C'est pas... Enfin bref, c'est pas que je comprends pas la technologie, je vous assure que je comprends la blockchain, les bitcoins, les tokens et les stablecoins. Enfin, je comprends assez bien pour comprendre. Ça, je vous assure que c'est le cas. Et du coup, enfin, certains disaient me répondaient sur Twitter, tu sais, les gens qui perdent leur argent... C'est parce qu'ils sont cons, tu vois, ils ont perdu de l'argent. Enfin, c'est pas... Non, pas tout à fait. Les gens disent, il faut que tu investisses de l'argent que tu peux perdre, de l'argent qui n'est pas essentiel pour toi. Et d'une part, bah, c'est pas comme ça que ça marche, tout le monde ne fait pas ça. Et puis d'autre part, c'est trop facile de dire ça. Encore une fois, le monde de la bourse est régulé pour que... C'est pas parce que c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin demain pour payer tes pattes qu'on peut t'arnaquer avec, quoi. Et en l'occurrence, oui, la technologie peut être intéressante. Oui, je discutais notamment avec, je crois que c'était Léo Duff sur Twitter, il me disait, mais la négativité sur les cryptos, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde la technologie. On ne peut pas regarder juste la technologie. Il faut regarder son application. Sinon, enfin, la technologie en soi, ça...
C'est ça qui est plus intéressant, même.
C'est plus qu'intéressant pour moi, c'est essentiel. Il donnait l'exemple des AirPods. Il disait, regarde, les AirPods, utilisateurs, enfin, il y avait beaucoup de critiques qui disaient que ça ne servira à rien et aujourd'hui, tout le monde les utilise. Effectivement, et à vrai dire, moi, le jour où je les ai eus dans les oreilles, j'ai commencé à devenir une sorte d'évangéliste pour les AirPods. J'ai compris à quel point c'était bien. Mais c'est parce que c'est l'utilisation qui est intéressante. La technologie en elle-même, on s'en fout, le wireless, enfin, on s'en fout. Non, c'est ce qui rend le truc possible. Mais c'est son application qui est intéressante, c'est son application qu'il faut étudier. En l'occurrence, sinon, on fait de la recherche fondamentale. C'est pas ce qu'on fait. Quand on est prescripteur sur Internet, sur YouTube, en podcast, etc., il faut, on a un minimum de responsabilité de voir, de comprendre, en plus de la technologie elle-même, de comprendre son application. À mon sens, hein, je pense que c'est important. En l'occurrence, bref, tout ça pour dire, oui, je comprends la technologie, je vous rassure. C'est frustrant, tu sais, parce qu'on on est dans un domaine qui est peut-être comparable à celui qu'on avait avec Apple et Microsoft, et puis Apple et Google, qui a un petit peu disparu dans ces deux dualités-là. Mais dans un domaine où c'est, ben, il faut y croire, quoi. Et si tu n'y crois pas, tu fais partie de l'autre camp et on ne peut pas te faire confiance, ou c'est l'omerta, ou c'est... Tu vois, et effectivement...
Il y a toujours eu un certain clivage, hein, quand même, pour ces zones ou ces sujets qui sont très émergents. Il y aura toujours une partie de la population qui n'y croit pas, et une autre partie qui y croit et qui sont très, très passionnés. Et même à l'époque... de l'arrivée des premiers ordinateurs, c'était, voilà, il y avait ça aussi. Enfin, ouais, j'y étais pas, hein, je précise quand même, j'y étais pas. mais j'imagine, j'ai vu des, des reportages, mais...
Le truc, c'est qu'on on présente les crypto-monnaies comme, et là, je me fais un petit peu l'avocat du diable, parce que je continue à penser que technologiquement, c'est incroyable. Mathématiquement, la blockchain, c'est incroyable. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Enfin, vraiment, il y a des choses à admirer là-dedans. Mais quand on parle de tout l'écosystème qui s'est construit autour, on ne peut pas comparer ça à l'émergence de technologies comme les ordinateurs ou comme les AirPods ou comme ces choses-là, ou même comparer l'univers des crypto-monnaies, cet écosystème-là, à la bourse. La bourse, c'est des sociétés réelles qui ont des produits, des employés, des revenus, des gens qui payent, tu vois, pour utiliser les services, ou non. Mais on comprend quel est le service pour lequel on te demande de payer. En l'occurrence, bon, enfin, je vais encore m'attirer les foudres des convertis, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Et on va me dire, ah oui, mais il y a les projets qui sont des trucs d'arnaque, mais il y en a plein qui sont solides. Bah, oui et non. Enfin, si on fait la proportion, il y a quand même une énorme partie de cette hype autour des crypto-monnaies et des NFT et de la blockchain. En proportion, si tu veux, la partie arnaque, ou pas arnaque, je ne veux pas dire arnaque parce que c'est orienté, mais la partie qui a l'air de reposer sur du vent, bah, elle est quand même énorme par rapport aux projets solides et sérieux qui semblent avoir quelque chose de concret à vendre ou pour demander votre investissement. Encore une fois...
J'ai un peu le même sentiment que toi, mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien d'intéressant qui va en sortir. Encore une fois... Je fais encore ce comparatif avec les ordinateurs, mais aux premières machines, les gens ne comprenaient pas à quoi ça servirait. Ce n'était pas accessible au plus grand nombre. Et donc, du coup, on n'avait pas forcément d'application super claire, à part des usages de niche ou très spécialisés. Mais il y a eu quelques innovations qui ont rendu la chose accessible, compréhensible, à portée de tous. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on tend pour la blockchain, mais peut y avoir quelques projets, et ça peut suffire finalement, quelques projets qui vont sortir de cette technologie, qui vont rendre la chose plus tangible, plus concrète, plus accessible pour le grand public. On n'y est clairement pas.
Ouais. Mais je crois que je comprends ta comparaison, mais celle que je ferais moi en retour, c'est qu'il y a d'un côté la technologie, enfin l'émergence de la micro-informatique, on va dire dans les années début 80, fin 70, début 80, qui est peut-être un truc qui deviendra quelque chose. Et à côté de ça, tu as une armée de gens qui font des boîtes en carton, qui dessinent un écran dessus et qui disent « Voilà, j'ai un ordinateur, vous voulez me payer 1500 euros ?» Tu vois, c'est ça l'équivalent. Et on a autour de la crypto-monnaie, la partie boîte en carton avec un dessin d'ordinateur dessus, qui est devenue 100 fois la taille de la technologie intéressante des micro-ordinateurs qui est à côté. Et donc, oui, peut-être qu'effectivement, à un moment, la vraie technologie sur laquelle la vapeur d'eau est basée, bah, ça donnera quelque chose. Mais il n'empêche qu'il est difficile de dire à tous ceux qui sont en train d'investir et cette économie monumentale qu'est la finance décentralisée, de dire, la juger dans l'ensemble et dire... Ah oui, mais vous qui n'y croyez pas, c'est parce que vous comprenez pas ou c'est parce que vous n'y croyez pas, mais regardez, la technologie est solide. Ok, pour, je sais pas, 0,5% de ce qui est en train de constituer cette industrie. Et c'est très... Enfin, je vais pas dire malhonnête là encore, mais c'est très disingenuous. Je sais pas comment on peut dire en français. On veut pas voir la réalité de cette industrie quand on présente les choses comme ça. Parce que la réalité de ce qui se passe maintenant... c'est qu'il y a une énorme partie de... Enfin, c'est qu'on peut dire que la technologie solide représente une partie négligeable de ce qui s'échange aujourd'hui au niveau financier. Donc, bref, bon, je vais admettre aussi qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui ont, on dit, ils ont perdu des millions, des milliards, machin. C'était peut-être des gens qui avaient investi 100 dollars et puis qui, au final, ces 100 dollars ont gonflé en 100 000 et qui sont retombés à 2 000 ou 20 000 ou 50 000 même. Donc peut-être qu'il y a une sorte d'argent virtuel qui a été perdu et que ça ne représente pas des pertes sérieuses. Mais il ne faut pas oublier non plus que cet argent, cette valeur générale est alimentée par des gens qui continuent à rajouter de l'argent. Donc il y a bien des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans toute cette histoire. Ce n'est pas que de l'argent. Tu sais, ce qu'on te dit aussi, c'est
«
If you don't sell, you haven't lost anything ». Tu sais, si tu ne vends pas, bah, tu n'as pas encore vendu, ça reste virtuel. Enfin, va expliquer ça aux gens qui avaient, je ne sais pas moi, même 100 dollars en Tera et maintenant le Tera, il vaut zéro, littéralement zéro cent. Oui, tu peux lui promettre que ça va remonter. Bon.
C'est ça, voilà, c'est les perspectives qui sont plus inquiétantes.
C'est ça. Bref, bon. On va conclure avec quelques petits sujets en plus. j'ai découvert que l'Union européenne était en train d'interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. Alors, on n'y est pas encore parce que pour le moment, c'est la Commission et le Parlement doit voter dessus dans les quelques mois à venir. Mais je n'avais pas du tout compris que c'était 2035 pour la fin de la vente des véhicules thermiques. Donc, je comprends pourquoi Tesla vaut beaucoup d'argent.
Ah oui, oui. Là, c'est une course contre la montre, hein, de toute façon, pour chaque constructeur. Hein.
Il est temps. Et c'est bien, ça motive, tu vois, tout à coup, quand t'es Peugeot, Citroën ou, je sais pas moi, Ford, ou non, pas, enfin, Ford, c'est pas européen, mais oui, 2035, ça va arriver vite, hein, donc t'as intérêt à t'y mettre.
Ouais, complètement, et du coup, ça justifie aussi, dans leur plan, de dire, bon, bah là, il faut investir dans la recherche et développement sur ce sujet, sinon on n'existe plus demain, quoi.
C'est marrant à quel point les Américains ont une vision tellement différente de la contrainte par le gouvernement. Et à chaque fois qu'on parle de choses comme ça, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont un petit peu connexes à ça. Par exemple, il semblerait qu'Apple soit en train de tester des téléphones avec port USB-C au lieu du Lightning et possiblement pour les sortir en 2023-2024. Pour se conformer aux lois européennes. Et la réaction immédiate des Américains, c'est « Ah, mais tu ne te rends pas compte, si on fait ça, ça veut dire que, du coup, le gouvernement doit un peu imposer des trucs technologiquement et donc ça peut avoir un effet néfaste, machin. » Et, enfin, je ne sais pas, moi, je suis pas par principe pour que le gouvernement décide de comment on fait fonctionner Apple, mais sur certains trucs, tu te dis « Bah oui, il faut une contrainte du gouvernement, sinon... » l'industrie ne bouge pas. Enfin, c'est le rôle du gouvernement, tu vois, de donner certaines orientations, surtout quand on parle de réchauffement climatique. Bon, là, les ports USB-C, c'est pas directement lié au réchauffement climatique, même si on peut parler de gâchis de technologie. Mais les Américains, ils voient pas ça du tout, hein, du tout. C'est vraiment.
Mais on n'a pas la même histoire. On vient pas de la même histoire du tout, et la place du gouvernement n'a pas eu la. Enfin, c'était pas la même place du gouvernement au sein de l'histoire en Europe et aux États-Unis. Hein.
Carrément pas, oui. Carrément pas.
Ça a façonné leur rapport. Hein,
c'est très intéressant dans le Phileas Club. Moi, j'en parlais beaucoup avec certaines personnes et c'est intéressant de voir à quel point la méfiance du gouvernement a des racines historiques et de quelle manière ça se justifie, mais aussi quels excès ça amène aujourd'hui. Parce que même les gens de gauche aux États-Unis, qui sont pour une bonne partie, on va dire, plutôt équivalent au centre ici en Europe, eh ben, quand tu leur dis « Ah, l'Union européenne a décidé qu'il faut faire comme ça » ou « Le gouvernement réfléchit à faire ceci », immédiatement, ces gens « Ouf, attends, je ne suis pas sûr, le gouvernement ne devrait pas se mêler de ceci et de cela », même quand il y a un besoin hyper clair que, tu vois, le prof signe la fin de la récré. Et même les gens qui sont à gauche aux États-Unis, ils sont... je sais pas, c'est comme si tu disais en France « Oui, il faudrait qu'on touche au fromage », tu vois, là, c'est juste « Oula, attends, non, c'est pas possible !» Tu vois, ces trucs sont...
C'est comparaison, là.
Je pensais à un truc, tu vois, qui est culturellement hyper important dans notre essence même.
Ouais, mais bon, tu peux avoir l'effet inverse, c'est-à-dire le gouvernement essaye de faire passer une loi qui serait à l'encontre de certaines libertés et qui essaierait de... voilà, tu vois, sans trop de rapport avec ce qui a pu se passer récemment, tu vois, là, typiquement, j'ai pas forcément envie d'être alignée avec le gouvernement, tu vois. Et donc, t'as eu les deux camps, t'as eu des États qui étaient alignés, d'autres qui n'étaient absolument pas alignés. Et en fait, tout ça, c'est lié aussi à cette culture de la liberté, de défendre sa propriété, etc., qui est fortement ancrée aux États-Unis, quoi.
On a justement, écoute, je vais nous faire un petit peu mentir, mais en même temps, on va parler du Texas. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment, tu vois, ça fait partie des États-Unis. Hein. Ils ont un pied dehors en permanence. Mais on reviendra à l'Europe dans une seconde. Au Texas, il y a une loi qui a été passée il y a quelques semaines qui impose aux opérateurs de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, etc., c'est ceux qui ont 50 millions d'utilisateurs ou plus, donc qui leur impose de ne pas réguler, de ne pas modérer les réseaux sociaux, mais du tout. Enfin, évidemment, c'est un petit peu comme Elon Musk. C'est genre, oui, on fait les trucs pour les trucs qui ne sont pas légaux, mais sinon, il ne faut pas modérer pour des questions d'orientation politique ou de localisation des utilisateurs ou ce genre de choses. En gros, c'est encore des conservateurs américains qui poursuivent ce fantasme qu'ils sont persécutés par les géants de la tech pour leurs opinions politiques, ce qui a été démontré comme étant faux à de nombreuses reprises par des recherches très sérieuses. Et en l'occurrence, c'est très préoccupant, il y a un procès qui est en cours faire en sorte que la loi soit annulée. Et pendant ce procès, le juge ou la juge avait décidé que c'était suspensif. Donc la loi ne devait pas être appliquée jusqu'à ce que le résultat du procès soit connu. Et une cour d'appel aux US a décidé que la loi devait être appliquée même pendant le procès. Ce qui est quand même ironique parce que le procès est censé comprendre exactement et savoir si la chose est acceptable et constitutionnelle et comprendre les aspects technologiques, les aspects techniques de la demande. En l'occurrence, la cour d'appel semble ne pas très bien comprendre les aspects technologiques et a quand même décidé qu'elle devait être appliquée. Parce que la raison pour laquelle c'est vraiment problématique, c'est qu'une loi comme ça a des conséquences dramatiques sur le réseau. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas repartir dans les détails, mais en l'occurrence, n'importe quel citoyen américain peut faire un procès au réseau en question s'il a été modéré, donc si son contenu a été altéré, enfin, pas la visibilité de son contenu a été altérée. Et il ne précise pas exactement ce qu'on a le droit de modérer ou pas, ou plutôt ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas le droit de modérer quelqu'un sur la base de ses croyances politiques, de ses orientations politiques. Ensuite, va interpréter qu'est-ce qui a été modéré pour une raison d'orientation politique ou pas, etc. Enfin, c'est complètement anticonstitutionnel parce qu'une société privée a parfaitement le droit de gérer le contenu de sa société. Ça pose des problèmes aussi, enfin le contenu de son service, ça pose des problèmes aussi parce que ça expose n'importe quel opérateur de forum ou de réseau qui a une grosse quantité d'utilisateurs à des procès importants s'ils modèrent. Donc du coup, ils se disent « Oh mais attends, du coup, je ne vais pas modérer ». Mais ils ont aussi une obligation de modérer pour faire... Enfin, il y a des choses qu'il faut modérer. Enfin, c'est un petit peu la pire des solutions. On a de l'autre côté, en Europe, la Commission européenne qui a proposé d'obliger les grandes sociétés de la tech à scanner les contenus de leur messagerie, y compris leur messagerie privée, pour le sésame, c'est-à-dire le contenu pornographique, pédopornographique en particulier, et pour le grooming. Je ne sais pas s'il y a un terme en français pour le grooming, mais c'est le fait de, pour des personnes un peu plus âgées, de, d'entretenir des relations avec des adolescents dans le but peut-être d'obtenir bah, des photos ou même parfois des rencontres et même des relations à terme. Donc, l'idée, évidemment, est louable d'essayer d'éviter le contenu pédopornographique et ce genre de choses, mais vous vous souvenez que quand Apple avait proposé de faire ça de manière aussi respectueuse que possible de la vie privée, c'est-à-dire de scanner le contenu en privé sur l'appareil et puis peut-être de prévenir les parents ou de signaler aux autorités quand c'était du contenu qui était connu avec une empreinte digitale numérique, eh bien, ça, ils avaient été critiqués parce qu'à partir du moment où on introduit cette technologie, ça veut dire qu'on peut scanner du contenu d'une autre nature que simplement la pédopornographie. Pour la pédopornographie, évidemment, personne ne sera contre, mais la technologie qui peut exister fait qu'on peut le faire pour d'autres choses et ça peut être utilisé pour des gouvernements totalitaires, par exemple. En l'occurrence, ce que propose la Commission européenne brise complètement le chiffrement de point à point, et donc permet de fait une sorte d'espionnage sur, bah, il faut scanner tous les messages pour savoir où il y a de la pédopornographie, et donc tous les messages doivent être ouverts d'une manière ou d'une autre. On revient encore à ce débat interminable, quoi. Donc entre le Texas, qui veut qu'on ne modère rien, et l'Union européenne, qui veut qu'on espionne tout, je commence à me dire, peut-être que les Américains n'ont pas si tort dans leur histoire de se méfier du gouvernement. Je plaisante, hein, bien sûr, mais...
Non, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un juste milieu. Hein, et clairement, on l'a pas trouvé. C'est quand même assez étonnant. Bon, je ne vais pas porter un jugement sur le Texas parce que bon.
Oh, tu peux. Tu peux. Vas-y.
Ils sont orientés d'une certaine manière et donc évidemment, ils ont cette impression d'être invisibilisés par les réseaux sociaux, etc. Donc ils vont. En effet lutter pour n'en avoir aucune modération et etc. Ce qui va évidemment être dramatique pour certaines communautés, mais ça à la rigueur j'ai l'impression un petit peu. Mais pour l'Union européenne, je suis assez étonnée. C'est peut-être que j'avais un peu trop d'espoir ou de confiance en l'Union européenne, mais je veux dire, comme tu l'as dit, c'est pas des conversations nouvelles sur si on a une porte d'entrée sur tous ces messages chiffrés, le chiffrement ne sert à rien. Donc, je comprends les risques que ça engendre, évidemment, sur le contenu pédopornographique, sur lequel on est tous d'accord, qu'on ne veut pas, qu'on voudrait modérer ça. Mais le problème, c'est tous les autres types de contenus aussi que ça rend accessible. Et notamment, on peut parler du journalisme, des whistleblowers, etc., etc.
Des lanceurs d'alerte, ouais.
Voilà, je lance des exemples comme ça qui sont faciles, mais ça représente aussi une menace, ce manque de chiffrement et ce manque d'invisibilité face au gouvernement, justement, pour le coup. Ça pose un risque ici aussi.
Et bien sûr, comme à chaque fois, on se dit, c'est a priori pas avec nos gouvernements maintenant, ou on se dit là, ça, c'est pas tellement problématique les problèmes de ce type-là, encore que. Aujourd'hui, mais qui sait qui peut être au pouvoir demain. Et d'ailleurs, dans certains pays de l'Union européenne, on sait que certains ne s'en priveraient peut-être pas d'étendre les limites de ces technologies pour l'utiliser à leur avantage. Alors, on peut nous dire, non, vous inquiétez pas, on l'utilisera que pour ça. Ben oui, mais la promesse, c'est la vôtre, et si ça change demain ?
On a déjà eu un premier exemple. Enfin, je veux dire, l'affaire Snowden, etc., ça remonte. Ouais. Mais bon, on avait eu des promesses de « on n'utilisera pas ça pour ça ». Oui, dans la pratique, c'est très tentant de l'utiliser quand même.
D'ailleurs, les promesses, Meta avait promis, enfin avait demandé à son oversight board un avis sur la gestion du contenu pendant la guerre en Ukraine, relatif à la guerre en Ukraine. Ils ont retiré leur demande, ce qui est assez. vous vous souvenez, hein, cet oversight board, c'est un organisme indépendant qui a été créé par Facebook, mais qui était censé justement donner des avis sur la gestion du contenu et de la modération. Et là, le fait qu'ils aient juste on a retiré la demande, finalement ça va. Et je comprends pourquoi ils le font pour l'Ukraine et la Russie. Peut-être qu'ils se disent ok, on va gérer nous-mêmes et on sait comment on doit faire. Mais il n'empêche, le fait qu'ils aient posé la demande puis enlevé. C'est un peu genre, mais en fait, ce board n'est pas hyper. Il s'en lave les mains, quoi.
Et puis, ce n'est pas la première fois que la relation entre Meta et le board est un petit peu conflictuelle. Je me souviens à quel sujet on en avait déjà discuté.
On avait parlé quand ils ont fait leur première recommandation qui était assez sévère, quoi. C'était un peu genre, ça, vous faites n'importe quoi, ça, il faut faire comme si. Et le board avait pris quand même son indépendance face à Meta. Donc, c'est...
Oui, mais je crois que Meta avait un peu genre ignoré certains trucs, avait un peu choisi dans les recommandations ce sur quoi ils allaient agir. Du coup, on se demande un petit peu l'intérêt ce board et si ce n'est pas juste... des pantins, ils font écran de fumée en disant, ils sont là, mais en fait, concrètement, à quoi ils servent ?
Apple n'est plus la société la plus, à la plus haute valeur boursière au monde. Je suis sûr que tu seras extrêmement attristé d'apprendre qu'ils ne valent plus que 2,37 trillions de dollars. C'est trillions, je me plante toujours. Billions, pardon, non, c'est billions. Billions de dollars en français, c'est trillions en anglais. Et c'est Saudi Aramco qui les a dépassés. Bon, peut-être que ça rechangera. Nouvelle un petit peu plus, qui va, peut-être pas me tirer une larme, mais me faire dire « Oh !» Eh bien, c'est que Apple ne vend plus d'iPod Touch. En tout cas, ils vendent leur dernier stock maintenant. Et du coup, c'est la fin de la gamme iPod qui avait été lancée en 2001. J'imagine que tu as eu un iPod, toi, à un moment dans ta vie, amoureuse de musique comme tu l'es.
J'en ai toujours un.
il est
dans une boîte, tu sais, de old tech que j'ose pas jeter.
Ah, tu l'as ? Oui, c'est pas que tu l'utilises.
Non, je l'utilise plus. Mais en fait, je n'ai jamais trop utilisé. Moi, je n'étais pas une utilisatrice d'iPod, j'avais un Arcos.
Français, très bien.
Ouais, bien solide et tout, qui m'accompagnait et tout. Et en fait, il a très bien tenu. Et l'iPod était un petit cadeau, un iPod mini, j'avais, très mignon, mais qui en fait est arrivé alors qu'on avait déjà les smartphones et le pauvre, il n'a pas eu trop de chance.
D'accord. Moi, j'ai commencé avec un iPod mini, c'était les premiers podcasts que j'écoutais sur mon iPod mini.
Oh là là.
Ce qui me marque encore plus, c'est qu'en fait, l'iPod a été lancé en 2021, donc il y a à peu près 20 ans. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis... Alors, 20 ans, c'est pas court.
Ça fait tant de temps que ça ?
Eh bien, moi, je dirais, pour du lancement du truc qui était le début de la croissance incroyable d'Apple, à la fin complète du produit, alors oui, il a été remplacé par l'iPhone, mais ça me paraît court, moi, en fait. L'iPod, c'est presque toute l'histoire d'Apple, j'exagère, hein, bien sûr, mais... Et ça fait que 20 ans, entre guillemets. Peut-être la différence d'âge.
C'est intéressant de comparer avec d'autres produits phares justement de l'époque tech pour voir un petit peu les durées de vie.
C'est vrai.
C'est quand même pas mal. Mais...
Ouais, je crois que l'iPod est peut-être dans une position particulière où l'iPhone l'a remplacé. Parce que s'il n'y avait pas d'iPhone, tu vois, on aurait toujours nos iPods. Donc c'est un autre produit.
Ouais, puis c'est ça, c'est une gamme de produits qui s'est fait éteindre par une autre gamme qui est arrivée. Pas exactement sur le même scope, mais qui lui a marché bien, qui lui a plutôt écrasé.
Finalement, les iPhones, c'est jamais que des iPods avec une connexion cellulaire, tu vois. C'est un peu ça. Les iPods continuent. Et puis, deux autres petites news que je voulais évoquer. Netflix serait en train d'étudier la possibilité d'avoir des émissions en live, qui seraient des émissions des unscripted, donc c'est des trucs, des jeux ou des choses comme ça, ou des stand-up ou des trucs du genre, avec des votes pour des votes en live. Et là où c'est pas hyper incroyable pour une émission télé d'avoir des votes, quand on pense à Netflix, c'est global. Tu peux imaginer des trucs avec des votes dans le monde entier pour des émissions, ça pourrait être rigolo. Bon, c'est aussi peut-être Netflix qui essaye de, d'étendre ces différents types de produits proposés. Et ils sont encore à l'état de recherche. Hein. C'est une rumeur, c'est pas du tout que ça va arriver. Mais l'autre truc, c'est dans la catégorie streaming, Gaumont est en train de lancer un service de streaming pour des vieux films français en noir et blanc. Il y a 200 films et ça coûte 5 euros par mois. Ma première réaction, c'est un peu... J'aime bien les tontons flingueurs, mais tu vois, 5 euros par mois pour pouvoir revoir les tontons flingueurs.
Ah, mais il est disponible uniquement sur cette plateforme-là. Hein. Donc, j'aime vraiment, vraiment ce film.
Il y a peut-être des clients. Hein. Enfin, il y a sûrement des clients. La question, c'est combien. Mais...
Ouais. 5 euros par mois, c'est... 5 euros par mois, c'est cher quand même pour 200 films, non?
Bah c'est ça, c'est ça. Alors c'est peut-être des classiques qu'on ne peut pas éviter. J'ai pas l'impression qu'il y ait non plus, tu vois, sur les 200, c'est pas qu'ils sont tous inévitables. Je sais pas. Peut-être que c'est un point d'entrée, puis ils vont étendre le truc. Peut-être qu'ils se disent, bah même si on a 400 personnes, c'est toujours ça le prix, tu vois, en revenu. Je sais pas. Donc tu me confirmes que tu ne vas pas t'abonner à comment il s'appelle, Gaumont Max, Gaumont Live, Gaumont Streaming.
Absolument pas. On est déjà abonné à bien trop de services de streaming. Donc autant te dire que là, en mai 2022, il va falloir nous construire un cas assez solide pour nous convaincre de souscrire un autre service. On serait plutôt dans une démarche de bon, parmi tous ceux qu'on a, est-ce qu'il y en a dont on peut se passer, parce que là, on n'est pas très raisonnable.
Pour pouvoir t'abonner à Gaumont Classique. Pour ça. Peut-être qu'il y a des gens hein, qui sont... Mais tu sais, je regarde les films. Alors, je ne suis pas la cible, hein, mais il y a quand même peu de films que je connais. À la limite, bon, Le Bossert, ok. Mais après, tu vois, il y a Les Amants, 8,5, Antoine et Antoinette, Avant le Déluge, Les Désarrois de l'élève Toerless, Rendez-vous de Juillet. Je n'en connais aucun, quoi.
En fait, il y a un truc, moi, qui déjà, je ne comprends pas. Le principe d'avoir un service qui donne sa date de mort. C'est-à-dire qu'il se limite aux films en noir et blanc. C'est comme tu disais, bon, bah, je meurs demain, je le sais. Je vous propose 5 euros par mois pendant le temps où vous vivrez, mais je sais que je n'ai pas une durée de vie très, très longue.
Il y a les tontons flingueurs.
Ouais, non, mais...
Peut-être, oui, bon, j'essaye de voir, tu sais, je me dis peut-être qu'il y a des clients, mais oui, non, j'avoue, j'y crois pas.
Non, mais à la rigueur, franchement, je comprends qu'une plateforme pour remettre en valeur l'offre et la culture cinématographique des films passés, je trouve qu'il y a une vraie valeur là-dessus, mais se limiter aux films en noir et blanc, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
Peut-être que c'est le point d'entrée et qu'après, ils font des choses.
Pour eux, mais en tout cas, leur pitch a l'air assez...
assez limité. Ouais. Écoute, ce qui est illimité, c'est notre amour pour ce que tu nous proposes dans le Rendez-vous Tech et ailleurs. Et du coup, en fin d'émission, je te demande où on peut te retrouver sur Internet. Dis-nous tout.
Quelle transition. C'est intimidant.
Je m'entraîne. Hein. Podcasteur depuis 15 ans. Professionnel.
J'essaye pas de mettre au même niveau que les films en noir et blanc qui sont sur le service de Gaumont. Attention. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire partie de l'émission. Et puis, si vous en voulez toujours plus, vous pouvez me retrouver tous les mardis matins sur Twitch, sur la chaîne Naotech QG pour l'émission où on débriefe de l'actualité tech avec le mug. Voilà. Et puis, sur Twitter, au pseudo Aizea Design.
Merci beaucoup Marion. Vous retrouvez Jeff également sur Twitter @Jeff et pour ma part c'est NotePatrick sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver toute la communauté sur le Discord. Il y a le lien dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com, le Discord où on parle de plein de choses super sympas, la tech, le gaming, mais pas que. Et puis on a aussi le live sur Twitch. Tous les mardis midi pour le rendez-vous tech, enfin presque tous. Aujourd'hui, on enregistre un petit peu avant. Et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et en plus de ça, bien sûr, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Ça, vous le savez. RDVTech, c'est dans les notes de l'émission ou alors simplement vous cherchez sur notepatrick.com et vous retrouverez tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Pas d'after show aujourd'hui puisqu'on enregistre le lundi soir, mais je ferai un petit papotage à la place du rendez-vous tech demain. Je doute que vous tombiez dessus assez tôt pour écouter, pour nous rejoindre, mais il sera inclus dans le flux des épisodes, je pense, le week-end si on fait un petit TME comme on le fait de temps en temps. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.